Vous écoutez France Culture.
Épisode croquignolesque dans l'affaire Benalla. Alain Giblin est revenu ce matin sur ses déclarations d'hier devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Un rétropédalage qui pose question. Stéphane Robert reviendra également sur ce qu'on peut peut-être considérer comme un dérapage institutionnel dans cette affaire. Une cinquantaine de morts dénombrés dans les incendies en Grèce. Les leçons de la tragédie de 2007 n'ont pas été visiblement retenues, nous dira dans ce journal Angélique Kourounis. Le Venezuela s'enfonce dans une crise économique et sociale abysmal. Des millions d'habitants ont déjà fui le pays qui fut le plus riche d'Amérique latine. Le témoignage dans ce journal d'une sociologue vénézuélienne, Paola Vasquez-Lesama. Un traitement préventif contre le VIH efficace à 100%. Il a été présenté ce matin même en ouverture de la conférence internationale sur le sida à Amsterdam. Et puis au menu de la grande table d'été, Maëlys.
On va parler de photographie de guerre à l'occasion de la rétrospective que consacre la Maison européenne de la photographie à James Nachtwey. Et on fera le portrait de Violet Nuissement, premier roman chez Gallimard, fugitif par parce que Rennes.
Le flou continue de régner dans l'affaire Benalla. Il faudrait un très bon opticien pour faire toute la clarté sur ce qui ressemble de plus en plus à un scandale d'État. On peut miser sur une séance musclée de questions au gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale en attendant l'audition de Patrick Strauda devant la commission d'enquête à 16h30 et le nouvel oral, peut-être de rattrapage, de Gérard Collomb, cette fois-ci devant la commission des lois du Sénat. Je parlais d'opticien, il faudrait aussi, Stéphane Robert, peut-être faire appel à des ORL lorsque l'on constate le revirement opéré ce matin par Alain Giblin, le directeur de l'ordre public et de la circulation à la préfecture de police.
Oui, marche arrière toute ce matin du directeur de l'ordre public et de la circulation Alain Giblin. Dans une lettre adressée à la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, il indique qu'il n'avait pas bien compris la question qui lui était posée. En l'occurrence, y a-t-il eu des réunions préparatoires des services de police en vue des déplacements d'Emmanuel Macron entre le 2 et le 18 mai? Et Alexandre Benalla était-il présent alors qu'il était censé être suspendu? Oui, avait concédé Alain Giblin, et donc il rectifie ce matin dans cette lettre en expliquant qu'il pensait qu'on l'interrogeait sur une période allant du 2 mai au 18 juillet et non pas du 2 au 18 mai. Pourtant hier soir lors de son audition, c'était on ne peut plus clair, c'est la députée du Rassemblement National Marine Le Pen qui l'interrogeait.
Comme vous nous avez indiqué tout à l'heure que M. Benalla était présent à l'intégralité de ces réunions, il ne vous est pas apparu qu'un jour, M. Benalla n'était pas présent à une des réunions qui pourrait avoir lieu entre le 2 et le 18 mai?
Non. Et je répète que la sanction prise à l'encontre de M. Benalla à aucun moment n'a été portée ni à ma connaissance ni à celle de mes collaborateurs.
Mais vous venez, par la réponse que vous venez de m'apporter, de m'indiquer que cette sanction n'a en réalité pas été appliquée, puisqu'il y a eu des réunions entre le 2 et le 18, et M. Benalla était présent avec vos services.
Écoutez, oui.
Évidemment, ce revirement paraît peu crédible si l'on réécoute attentivement ce qui s'est dit hier soir. Il est donc fort probable qu'il pourrait avoir subi des pressions afin qu'il fasse machine arrière. Dès lors, ce revirement semble être un préalable aux auditions à venir de deux éminents représentants de l'Élysée. Ce sera d'abord cet après-midi le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, vous le disiez. Et puis surtout, jeudi, au Sénat, l'audition du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, dont on dit qu'il est le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron. Tous deux délivreront la version officielle de l'histoire, mais version officielle qui apparaît d'ores et déjà contestable.
Au-delà des dysfonctionnements que révèle cette affaire entre les services de police, la préfecture, le gouvernement, l'Élysée et puis toutes les strates intermédiaires, Stéphane, ce qui se dessine de plus en plus, ce serait un dévoiement institutionnel.
Oui, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un problème, un gros problème entre l'Élysée, son rapport à la réalité et le fonctionnement des institutions. Déjà, on peut dire qu'à l'issue des premières auditions, ceux qui apparaissent le plus crédibles dans cette affaire, ce sont les policiers, à la fois le préfet de police de Paris et le directeur de l'ordre public et de la circulation. Tous deux étaient hier très précis dans les réponses qu'ils ont apportées aux députés, contrairement à Gérard Collomb, lui très imprécis et n'ayant l'air d'être au courant de rien. Et les deux policiers ont ouvertement mis en cause et renvoyé la balle dans le camp du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée. Là où c'est grave, c'est que l'exécutif semble s'enfoncer dans un déni de réalité. Et puis, ce qui est très grave également dans cette affaire, pourquoi a-t-elle pris une telle ampleur? C'est que l'exécutif, et plus précisément la présidence de la République, donne l'impression de remettre en cause les principes même de la société française et de ses institutions, notamment l'égalité entre tous les citoyens. Pour le moment, à travers les explications qui ont été fournies, Alexandre Benalla semble avoir été couvert et protégé au plus haut sommet de l'État. On écoutera donc avec beaucoup d'attention les deux auditions à venir de Patrick Strauda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron cet après-midi, et d'Alexis Keller, donc le secrétaire général de l'Élysée, jeudi jeudi matin au Sénat.
Merci Stéphane Robert pour toutes ces précisions. Espérons d'ailleurs que pour ces prochaines auditions, on n'aura pas besoin d'ORL. Ajoutons que François de Rugy a exclu tout à l'heure une nouvelle fois une audition d'Emmanuel Macron par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, estimant qu'elle n'aurait aucun sens, le président de la République, dit-il, n'étant pas responsable devant le Parlement. Le bilan des incendies en Grèce s'est alourdi ce matin singulièrement. Il fait état d'au moins 50 morts, essentiellement dans la région de Mati, village touristique sur la côte à une trentaine de kilomètres d'Athènes. 26 corps ont été découverts ce matin, enlacés et carbonisés dans une villa. Des victimes qui n'ont pas eu le temps de gagner la mer, pourtant toute proche. Il s'agit des incendies les plus meurtriers en Grèce depuis 2007, il faut le rappeler. À Athènes, nous retrouvons Angélique Kournis.
Actuellement, les températures ont baissé et les vents se sont calmés, rendant les opérations des pompiers plus faciles. Les canadairs survolent les régions dévastées pour éteindre les foyers, car le risque est là, si le vent se lève, la moindre étincelle peut refaire repartir les brasiers. L'armée et les volontaires de la Croix-Rouge, de leur côté, arpentent les régions qui ont flambé pour voir s'il y a des gens réfugiés dans leurs maisons. Mais le plus souvent, ils ne trouvent que des corps carbonisés, des gens piégés, comme ces 26 personnes trouvées enlacées, les unes voulant protéger les autres dans la cour d'une villa à moins de 50 mètres du rivage, qu'ils n'ont pas pu atteindre. Les pompiers et l'armée redoutent un bilan revu à la hausse. C'est pourquoi actuellement, ils se livrent à une véritable course contre la montre, s'occuper des gens qui ont tout perdu, les loger, les nourrir, évacuer les touristes, éviter les pillages et surtout trouver les disparus, au moins 10 selon un dernier bilan qui n'est que provisoire. Depuis quelques heures, une polémique a éclaté sur l'organisation des secours. Certes, la réactivité du gouvernement a été très rapide, mais il est vrai aussi que les leçons des terribles incendies de 2007 n'ont pas été retenues. Par exemple, le débroussaillage n'est toujours pas obligatoire. Les assurances incendies pour les maisons non plus. Résultat, quand les gens perdent leur maison, ils perdent tout et du coup, ils font tout pour la sauver lorsqu'il y a un risque d'incendie. C'est ce qui explique en partie le bilan très élevé des victimes. Beaucoup ont voulu rester jusqu'au bout pour tenter de sauver leur maison et quand ils ont voulu partir, il était déjà trop tard. Athènes a demandé l'aide internationale pour faire face à cette situation extraordinaire. Seuls l'Espagne, Israël, Chypre et les États-Unis ont pour l'instant répondu à cet appel.
Angélique Kournis à Athènes. Le nord de l'Europe subit également une vague de chaleur et de sécheresse sans précédent aux conséquences dramatiques des incendies de la Norvège à la Lettonie, en passant par la Suède, où 25 000 hectares sont partis en fumée. La Suède qui connaît le mois de juillet le plus chaud depuis au moins 2 siècles et demi. Et pour en finir avec ce chapitre climatique, au Japon, 80 personnes sont mortes, victimes d'une vague de chaleur humide depuis 3 semaines. 35 000 personnes tout de même au Japon ont dû être hospitalisées pour les mêmes raisons. Le Venezuela s'enfonce dans le chaos économique et social. Le FMI estime que l'inflation pourrait atteindre 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année. Situation comparable à celle de l'Allemagne dans les années 20. L'ex-pays le plus riche d'Amérique latine, pays qui se vide d'ailleurs ses habitants, qui fuit la misère. 1 million de Vénézuéliens ont émigré vers la Colombie au cours des 16 derniers mois. L'effondrement de la production de pétrole brut principale, la richesse du pays, explique en grande partie cette banqueroute nationale. Elle en est à son plus bas, cette production, depuis 30 ans. Paola Vázquez-Lezama revient tout juste de son pays. Cette sociologue vénézuélienne, chargée de recherche au CNRS, nous décrit précisément le quotidien de la population.
Une papaye d'un kilo coûte 1 million de bolivars, mais le salaire d'un professeur universitaire à la retraite, c'est 40 millions de bolivars. Ça fait un quotidien assez infernal dans la mesure où il n'y a pas de l'argent liquide non plus. Et les distributeurs des banques ne donnent que 10 000 bolivars par jour, ce qui est rien, c'est 0,00 centimes d'euros. Et il y a des choses, surtout dans l'économie informelle, qu'on paye avec des espèces. Et cette économie-là, c'est l'économie qui souffre le plus. Par exemple, mes parents payent leurs marchands de journaux par virement bancaire. C'est assez surréaliste. Ça explique l'énorme exode, la vague, la marée humaine qui traverse tous les jours des Vénézuéliens vers la Colombie ou vers le Brésil, qui cherchent en fait des dollars pour pouvoir les changer au marché noir pour que leur famille ne meure de faim au Venezuela. Je sais par des informateurs qu'il y a 3000 Vénézuéliens qui arrivent en moyenne par jour au Pérou. Il y en a d'autres que j'ai des témoignages, des gens qui ont marché ou en faisant des autostops jusqu'au Chili. Et c'est pas un petit continent, l'Amérique du Sud. C'est un pays en faillite totale, c'est un pays hors service. Et surtout, c'est une population complètement abandonnée à son sort dans cette crise économique qui est très très difficile à imaginer.
Paola Vasquez Lezama, sociologue vénézuélienne, jointe par Valérie Crova. Allocution télévisée très attendue ce soir, celle du président iranien Hassan Rouhani dans le contexte de l'escalade verbale entre les États-Unis et l'Iran. Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, s'est fendu d'une réponse sur Twitter aux menaces proférées par Donald Trump. « Nous ne sommes pas impressionnés », a-t-il écrit en majuscule. Un autre membre du gouvernement iranien évoque quant à lui les menaces américaines de bloquer les exportations de pétrole. Si l'Amérique veut s'engager dans cette direction, elle fera à coup sûr face à une réaction et des représailles équivalentes de la part de l'Iran. Bref, Téhéran pratique la stratégie du tac au tac face à Washington. Des centaines de personnes disparues, des maisons emportées. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud-est asiatique. Un énorme barrage hydroélectrique en construction s'est effondré hier soir au sud du Laos, à la frontière du Cambodge, libérant des centaines de millions de mètres cubes d'eau et dévastant tout sur son passage. Le barrage en question devait commencer à fournir de l'électricité à partir de 2019 et 90% de l'énergie produite devait être exportée vers la Thaïlande. La correspondance d'Arnaud Dubus.
Le barrage réservoir de Sepian Senamnoy, dans le sud-est du Laos, recueille les eaux retenues par trois barrages hydroélectriques bâtis sur le fleuve Mekong. Construit par des firmes laotiennes, sud-coréennes et thaïlandaises, il est haut de 73 mètres et peut retenir un volume d'un milliard de mètres cubes d'eau. Il alimente une centrale électrique de 410 mégawatts. Le barrage s'est effondré lundi soir, libérant l'eau accumulée en ce début de la saison des pluies. Les millions de mètres cubes d'eau ont ravagé 6 villages. Sur les vidéos, on peut voir de larges zones inondées avec seulement des toits émergeant de l'eau. Les autorités ont annoncé mardi qu'il y avait plusieurs centaines de disparus et je cite « quelques vies humaines de perdues », un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Le Laos a basé l'essentiel de son économie sur les barrages hydroélectriques, notamment le long du Mékong, un choix qui est depuis longtemps vivement critiqué par les organisations régionales de protection de l'environnement et des droits de l'homme. Nul doute que cette catastrophe va amplifier le mouvement d'opposition au barrage.
Arnaud Dubus sur cette catastrophe enregistrée donc au Laos, signé Arnaud Dubus. Un traitement efficace à 100% contre l'infection par le VIH. Résultat d'une étude rendue publique ce matin à l'ouverture de la conférence internationale sur le sida à Amsterdam. La PrEP, acronyme pour prophylaxie pré-exposition, traitement à prendre avant des rapports sexuels potentiellement à risque. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour.
Cette étude confirme donc la très grande efficacité du traitement préventif en question.
Effectivement, 1600 volontaires qui ont pris la PrEP pendant un an et aucune contamination. La PrEP existe depuis 2 ans et demi en France. C'est une alternative au préservatif pour les personnes à risque, la possibilité de prendre, quand on est séronégatif, un traitement pour ne pas être contaminé. Soit de façon continue, une pilule par jour, soit à la demande, 2 pilules 2 heures avant le rapport sexuel, puis une pilule 24 heures, puis 48 heures après le rapport. Cette seconde option à la demande ne s'adresse pour l'instant qu'aux hommes gays. Ce traitement préventif est remboursé à 100% par la Sécurité sociale et son but est de casser l'épidémie, notamment chez les hommes homosexuels, particulièrement exposé. Marc 19 est le directeur général de AIDE.
Pour les hommes homosexuels qui ont des relations sexuelles, c'est 200 fois plus de risque de contracter l'infection à VIH par rapport aux hétérosexuels. C'est une question épidémiologique, c'est une question de dynamique épidémique.
On compte actuellement 7000 personnes qui utilisent la PrEP en France, essentiellement des gays. Les autorités sanitaires souhaitent cibler davantage de populations à risque. Jean-Michel Molina est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris. C'est lui qui est le pionnier de la PrEP en France.
Il ne faudrait pas faire de la PrEP une pilule qui ne serait destinée qu'aux hommes homosexuels et destinée à toutes les personnes qui, de par leur conduite sexuelle, peuvent être contaminées par le virus du sida. L'autorisation en France de la PrEP n'est pas du tout limitée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Cette indication concerne toutes les personnes qui ont des comportements à risque, c'est-à-dire des hommes ou des femmes, qui, parce qu'ils vivent dans des communautés où le virus circule de façon endémique, sont à risque de contamination.
Et parmi ces autres populations à risque, il y a les prostituées, les transgenres et les migrants venus de l'Afrique subsaharienne, des populations avec une prévalence élevée au VIH et encore parfois peu touchées par la prévention.
La PrEP, pilule miracle contre le sida, point d'interrogation, c'est le thème du magazine de la rédaction de France Culture, diffusé ce vendredi à 17h. On vous y retrouvera d'ailleurs, Antoine Marette, puisque c'est vous qui signez ce magazine. Une dernière information concernant l'affaire Benalla, on vient de l'apprendre, les Républicains ont décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement. C'est ce que vient tout juste déclarer, ce n'est pas une surprise, le chef de groupe à l'Assemblée, Christian Jacob. La tendance météo pour cet après-midi, le mercure grimpe toujours de 26 à 35 degrés pour les maximales. Menace orageuse en sud-ouest, puis dans la soirée en Ile-de-France. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal sur France Culture, 18h.